Frères et sœurs, ainsi parle le prophète Amos, peuple du Seigneur, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Ce matin, frères et sœurs, nous allons le rencontrer de belle manière, à travers ce que nous sommes, à travers ce que nous voulons être, nous tous qui sommes ici, réunis en présence du Seigneur, à l'appel de cette promesse qui retentit pour chacun d'entre nous, il est juste et bon que tu sois là. Il est juste et bon que tu sois là, paroissien de toujours. Il est juste et bon que tu sois là, curieux d'un instant. Il est juste et bon que tu sois là, parce qu'aujourd'hui, l'archevêque est présent avec nous. Il est juste et bon que nous soyons ensemble, dans le cadre des 150 ans de ce temple, car l'histoire de Montpellier est telle que notre présence aujourd'hui est significative d'une belle chose. Souvenons-nous que le 24 septembre 1561, hier, les protestants s'emparent de Notre-Dame-des-Tables. Les catholiques font alors de la cathédrale un camp retranché, un peu l'image de Tien Bien Phu. Ils protègent le siège épiscopal qui a été transféré depuis Maguyon en 1536 avec l'accord de François Ier. Les protestants prennent position, ils installent leur artillerie. Ils rendent la situation des catholiques tout à fait intenable. Un accord entre les deux parties est signé. La garnison catholique quittera les lieux et le clergé catholique pourra continuer à célébrer pourvu qu'il ne soit pas armé. Mais un coup de feu retentit depuis la cathédrale. Un protestant est tué. Ni une ni deux, les protestants se ruent dans la cathédrale et en quelques heures, elle est saccagée. 40 mois pour investir la cathédrale. 1572, la Saint-Barthélemy sera finalement assez paisible dans ces lieux. Et en 1598, l'île de Nantes fera de Montpellier une des places fortes où le culte protestant est autorisé. 20 ans de calme, jusqu'à ce que les armées de Louis XIII fassent le siège de la ville rebelle. Ce sont les armées royales qui l'emporteront et qui imposeront aux protestants de démanteler toutes les fortifications. Et ensuite, cette ville rebelle sera mise sous bonne garde, avec non seulement la citadelle, actuellement Joffre, mais aussi cette statue équestre de Louis XIV qui domine sur l'ensemble de la ville et qui dit l'autorité du roi sur tous les sujets de sa majesté qui n'a pas toujours été très gracieuse. 1685, l'île de Fontainebleau constate qu'il n'y a plus de protestants dans le royaume de France. Alors, la destruction des quelques temples, l'exécution d'une trentaine de pasteurs et de prêtres, le bannissement des autres. Et puis, vous savez, la Révolution française, la liberté de culte, les articles concordataires. Une histoire tragique qui nous fait comprendre qu'aujourd'hui, nous célébrons l'Évangile, qui est mort et résurrection. Chaque dimanche, les chrétiens célèbre mort et résurrection. Mourir à ces vieilles histoires rancunières, mourir à un passé qui n'est plus notre présent, et faire ressusciter le cœur même de l'Évangile, la possibilité de vivre non seulement en bonne intelligence les uns avec les autres, mais en se regardant comme des frères et comme des sœurs. Cela est d'autant plus vrai lorsqu'il y a la présence des dominicains parmi nous. Et je salue à la fois le frère Joël, le frère Réponceau, qui fut directeur de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, qui avait eu déjà la grande ouverture d'esprit de m'accueillir il y a quelques années pour quelques études. Nous incarnons ici même le véritable visage de l'Église, un lieu où il est possible de regarder le passé face à face, les yeux dans les yeux, sans rien oublier, sans rien nier, mais sans être les esclaves de ce passé. Pouvoir dire que la vie est toujours plus forte que la mort, l'évangile est toujours plus fort que les rivalités, que la foi chrétienne transcende en tout temps et en tout lieu les clivages auxquels nous sommes si souvent enclins. Alors, légitimement que vous soyez là, monsieur l'archevêque, nous sommes très heureux d'être tous ensemble, les uns avec les autres. Et levons-nous maintenant pour chanter la première strophe du psaume 8, qui nous dira ce qui nous rassemble, le nom même du Seigneur.
Et recueillons-nous dans la prière.
Use de grâce envers moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon la grandeur de tes compassions, efface mes transgressions. Lave-moi pleinement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je connais mes transgressions et mon péché est continuellement devant moi. Contre toi seul, j'ai péché. Et j'ai fait ce qui est mauvais à tes yeux, afin que tu sois justifié quand tu parles, trouvé pur quand tu juges. Voici, tu veux la vérité dans l'homme intérieur, et tu me feras comprendre la sagesse dans le secret de mon cœur. Purifie-moi du péché avec de l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la détresse et la joie, afin que les os que tu as brisés se réjouissent. Cache ta face de mes péchés et efface. Crée-moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle au-dedans de moi un esprit droit. Ne me renvoie pas de devant ta face et ne m'ôte pas l'esprit de ta sainteté. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de franche volonté me soutienne. Délivre-moi de la coupe du sang, ô Dieu, Dieu de mon salut. Ma langue chantera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerais. Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié. Amen. Et nous restons assis pour chanter la première strophe du psaume 42, la première strophe.
Oh, de notre être pour que nos vies soient des reflets de la sienne. Il demeure en nous et nous pouvons comme lui rayonner au point d'être à notre tour une lumière pour les autres. Une lumière qui émane complètement de lui. C'est lui qui, à travers nous, illumine les autres. Ainsi, nos vies deviennent louange à sa gloire, la louange qu'il préfère. Et nous confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 428, les strophes 1, 2 et 4 du cantique 428.
apparurent et s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa. Et voici une voix sortit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis de crainte violente. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, soyez sans crainte. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Parole du Seigneur.
Nous chantons la 8e strophe du psaume 42. Psaume 42, 8e strophe, nous restons assis.
Mais cela nous est demandé à nous tous aussi, qui cherchons à devenir disciple de Jésus. Le prophète Isaïe ne dit-il pas « Le Seigneur m'a façonné une oreille de disciple ». C'est qu'avant de nous mettre à parler, il ne faut savoir écouter ce que le Seigneur veut nous dire, discerner ses appels, mettre en pratique ce que nous avons entendu. Oui, Dieu s'adresse aux hommes comme à des amis et converse avec eux pour les inviter à entrer en communion avec lui et pour les recevoir en cette communion. Les apôtres étaient en désarroi. La transfiguration, la parole de la voix céleste est comme la lumière dont ils avaient besoin pour continuer à suivre Jésus, à s'attacher à lui. Et il en est de même pour nous tous qui voulons suivre Jésus. N'oublions pas, frères et sœurs, que la parole de Dieu, lue, méditée chaque jour, agit en nous et qu'elle nous transforme peu à peu, parfois et même souvent à notre insu. J'aurais envie de dire qu'elle nous transfigure. Elle est une parole efficace qui réalise ce qu'elle dit. Elle nous fait connaître le Christ au point qu'un auteur a pu dire « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. » La parole de Dieu devient prière en nous et elle nous inscrit dans la longue lignée de tous ceux qui, depuis Abraham, ont écouté la parole et l'ont mise en pratique. Elle nous purifie, et tout particulièrement en ces jours de préparation aux fêtes pascales. La transfiguration de Jésus est un véritable mystère lumineux. Celui que les apôtres croyaient connaître, celui dont ils partageaient la vie quotidienne, laisse apparaître l'étonnant mystère de son être. Il n'est pas simplement un homme comme les autres, comme nous. La lumière céleste l'habite et la voix du Père le présente comme son Fils bien-aimé. Et c'est à partir d'épisodes comme celui-ci que la foi chrétienne pourra affirmer que Dieu s'est fait homme, que divinité et humanité sont présentes en lui, sans confusion et sans séparation. La lumière céleste, la nuée, la voix du Père peut éblouir, peut accabler les apôtres, au point qu'ils sont, ils tombent la face contre terre, saisis d'une crainte violente. Et quant à nous, nous pouvons nous demander s'il est nécessaire de s'attarder à cet épisode. Mais je crois que cet épisode nous place au cœur de notre foi chrétienne. L'existence humaine a pour Dieu une telle valeur qu'il a voulu la vivre pleinement. Si notre Dieu ne s'était pas fait homme, s'il n'avait pas proposé de nous faire ses partenaires, nous serions esclaves devant la divinité. La transfiguration nous fait percevoir ce qu'est la dignité de nos corps mortels. Ils sont fragiles, c'est vrai. Et nous savons bien qu'un jour nous mourrons. Mais l'évangile de la transfiguration nous invite à les voir sous la lumière de la résurrection. Ils sont appelés à la gloire du ciel. Et déjà, comme l'écrit l'apôtre Paul, nous avons à offrir nos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et il précise, ce sera là votre culte spirituel, dit-il aux Romains. Et dans la la première aux Corinthiens, le même apôtre dit « Glorifiez Dieu par votre corps ». Oui, frères et sœurs, que notre corps ne devienne pas une idole. Finalement, l'épisode de la transfiguration n'est-il pas une lumière sur notre parcours chrétien? Et c'est vrai pour ce temps de carême, nous voilà déjà au quart de son temps, de son parcours. Nous sommes en marche avec le Christ. Et il s'agit pour chacun d'entre nous de le connaître, lui et sa puissance de résurrection, avec la communion à ses souffrances. Il s'agit de devenir semblable à lui dans sa mort, afin de parvenir, s'il est possible, à la résurrection entre les morts. Vous avez reconnu quelques lignes de la lettre aux Philippiens. Voilà notre chemin chrétien. Et il est bon sur ce chemin, souvent difficile, d'avoir des temps de lumière et de paix, comme celui de la Transfiguration. Ces temps de lumière et de paix dans lesquels nous percevons que la gloire de Dieu est à l'œuvre. Nous croyons que le Sauveur Jésus-Christ transfigurera notre corps de lumière pour le conformer à son corps de gloire, ajoute encore l'apôtre dans cette même lettre aux Philippiens. Que cette lumière, frères et sœurs, brille en nous en ce dimanche et tout au long de notre vie. Amen.
Poursuivons notre méditation par le chant du cantique 425 de notre recueil de chants. Au cantique 425, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. gens, peut-être avaient-ils une information à nous communiquer sur leur projet, mais je ne les vois plus. Très bien, ce sera donc pour le dimanche suivant. Alors, quelques informations à partager dans notre agenda. Vous avez la feuille qui rassemble les différentes annonces des activités de notre Église. Il y a de belles choses en perspective. Il y aura par exemple mardi 17 mars, ici même à 18h30, un dialogue que j'entreprendrai avec Emmanuel Latreille, le directeur du Fonds régional d'art contemporain. J'en profite pour vous dire qu'il y a actuellement, rue Rambaud, au FRAC, une exposition tout à fait intéressante de Lisa Miroy, avec plusieurs tableaux qui peuvent susciter votre curiosité. Tout à l'heure, nous parlions de l'apôtre Paul. Il y a un travail sur le jeu de miroir, l'image que cela nous renvoie. Et Emmanuel Latreille vous parlerait volontiers de ces trois dimensions que sont le réel, l'imaginaire et le symbolique. Mais ce n'est pas forcément là-dessus que nous entretiendrons le mardi 17 mars. La règle du jeu est la suivante. Après quelques mots d'introduction et d'accueil que je ferai, il me soumet deux œuvres d'art contemporaines et, avec une approche théologique, j'essaie d'en balbutier quelque chose. Lui-même, avec ses compétences d'historien de l'art, nous aide, tel un pédagogue, à découvrir le travail de l'artiste, le sens de l'œuvre, et un dialogue s'engage sur la spiritualité dans l'art, sur le rapport que l'art et la théologie entretient avec le sacré. Et puis, nous n'avons pas fixé les objectifs, nous verrons bien ce que donne cette discussion. Et bien sûr, ce sera une discussion ouverte à celles et ceux qui seront présents pour pouvoir nous interroger et pour pouvoir partager aussi les propres lectures que vous ferez de ces deux œuvres qui nous seront présentées. Il y aura les assises des entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui se réuniront ici même à Montpellier. Est-ce que Franck, tu voudrais nous en dire quelques mots, notamment s'il y a encore quelques besoins, ou peut-être en profiter pour dire le sens de ces entrepreneurs et dirigeants chrétiens? Oui, au micro. Et puis, je vous rappelle que justement, le samedi 21 mars à 20h30, ici même, l'association des Amis de l'Orgue du Temple de la rue Maglone organisera en partenariat avec le Conservatoire un concert, donc le samedi 21 mars à 20h30, ici même. Il y a le président de l'association, si vous voulez d'ores et déjà faire un don extrêmement généreux pour la création du futur orgue. Franck, je te laisse la parole.
J'avais préparé un petit discours pour l'ouverture des assises des EDC, mais je vais vous en donner une petite primeur. En fait, tout commence avec mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Cette prière, c'est celle que nous disions avec mes parents avant les repas, et elle a marqué le début d'une longue aventure dont je ne me doutais absolument pas de l'issue. Une de ces issues est constituée par ces assises des EDC, à Montpellier. Donc, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, c'est un mouvement qui regroupe à peu près 3500 membres en France. Donc, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que je pense que le temps est compté. Mais ce mouvement a choisi de célébrer ces assises, enfin célébrer, organiser ces assises qui ont lieu tous les deux ans, et a choisi d'organiser ces assises à Montpellier. Donc, à Montpellier, nous sommes à peu près 25 membres des EDC. Et nous avons eu la charge d'organiser ces assises en grande partie. Donc ça veut dire que chacun des membres des EDC à Montpellier reçoit 40 personnes venues de la France entière. Donc on s'est dit que pour cette occasion-là, on avait besoin de l'aide de tous les Montpelliérains, Montpelliérains catholiques et Montpelliérains protestants. Parce que les entrepreneurs et les gens chrétiens se sont rendus compte à l'expérience que parmi leurs membres, il y avait des protestants, des catholiques, et au final, ils ont décidé de s'appeler entrepreneurs et dirigeants chrétiens, chrétiens regroupant l'ensemble, finalement, de tous les membres. Concrètement, les aides pour lesquelles on a fait un appel concernent le dîner du vendredi. Chaque participant aux assises est invité dans une famille. Donc il y a des appels qui ont circulé, et je pense que les gens qui ne se sont pas encore inscrits sont juste passés à côté du message et n'ont pas eu encore l'information, mais il nous reste quelques membres, entre guillemets, à caser. C'est peut-être les meilleurs, je ne sais pas, il n'y a pas eu de sélection jusque-là, mais n'hésitez pas à vous manifester. Par ailleurs, pour que ces assises soient complètement connectées à Montpellier, on a aussi proposé à un certain nombre de bénévoles de venir nous rejoindre. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les bénévoles? Les bénévoles, ils vont simplement être là par leur présence et aider évidemment à la logistique de cet événement. Voilà, c'est les deux points qui me paraissent essentiels. Et évidemment, si le week-end, donc 15 jours, du 20 au 22 mars, vous voyez des gens un peu perdus dans Montpellier, ben, il se peut que ce soit des dirigeants chrétiens qui cherchent un petit peu ou la cathédrale, ou le quorum, ou éventuellement le temple de Magdeburg. Mais voilà, ne les laissez pas tomber. Posez-leur la question de savoir ce qu'ils cherchent et aider éventuellement à retrouver le quorum. Je vous remercie de votre attention et j'ai envie de conclure également en disant « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Merci.
Notamment ne pas oublier le culte qui aura lieu le samedi à 12h30 au quorum que je présiderai. Et puis, il y aura la messe de clôture qui sera donnée à la cathédrale le dimanche, je ne sais pas, à 11h. Voilà, donc dimanche, 11h, à la cathédrale, la messe qui viendra nouer la gerbe de ses assises. Alors, à commencer le moment de l'offrande, il y a un double sens à cette offrande. Tout d'abord, donner à l'Église les moyens dont elle a besoin pour assurer ses missions. Et pour celles et ceux qui voudraient faire œuvre d'hygiénisme, en refusant tous les contacts, sachez que nous avons à votre disposition un dispositif pour les paiements sans contact. Donc vous pouvez utiliser votre carte bancaire, Jean-Robert se tiendra à votre disposition avec votre corbeille, avec une corbeille, paiement sans contact. Et bien sûr, vous avez aussi le droit de faire des chèques, de donner de l'espèce, et tout simplement de pouvoir offrir aussi de votre temps si vous le souhaitez. Voilà, c'est le moment de l'offrande, que ce soit un temps de liesse et de reconnaissance. Le panier est sorti. Nous nous unissons dans la prière. Éternel notre Dieu, il ne faudrait pas que notre prière d'intercession soit une manière de rester en retrait moi le soin de faire tout le travail. Aussi, donne-nous le courage, là où nous vivons, chaque jour, de prendre position au nom de notre foi, de ne pas mettre sous le boisseau notre attachement au Christ, même si cela doit nous amener ironie ou rejet. Donnez-nous le courage d'ouvrir nos yeux sur les injustices, quelles que soient les raisons de ces injustices, qu'elles viennent de l'argent, du pouvoir, de la lenteur des administrations, de l'égoïsme, de l'ignorance. Donnez-nous le courage et l'intelligence de les résoudre avec nos moyens, au nom même de notre foi. Nourris de cette grâce inconditionnelle, offerte universellement. Donne-nous le courage de nous engager, de nous investir, même si cela doit nous amener la perte de notre fragilité. Donne à nos communautés le courage de participer activement à la construction d'une société fraternelle au sein de notre métropole, afin qu'elle devienne le lieu où toute vie est orientée vers la paix, par-delà les conflits, par-delà les rivalités. Ne nous laisse pas au repos, Seigneur. Ne nous laisse pas au repos tant que notre foi n'imprime pas son exigence sur l'éventail de toute notre vie. Nous t'en prions. Aide-nous à être des croyants dans la pratique de chaque jour. Non pas simplement capables de faire virevolter de belles idées, de belles paroles, mais de pouvoir incarner dans une vie quotidienne l'exigence de ton amour. Qu'à travers nos pensées, nos mots, nos gestes, nos silences, monte le cri des hommes, le murmure des voix que l'on oublie si facilement, ou de ces personnes qui ne se sentent plus autorisées à parler. Et quand la joie des commencements s'effrite sur la route, quand le courage nous manque pour de nouvelles marches, fais-nous espérer nouveau. Fais-nous aller aussi loin qu'en fait ton amour. Et élargis l'espace de notre vie pour être des témoins de ta charité. Élargis notre prière aux dimensions du monde. Ne nous laisse pas nous replier sur nous-mêmes, sur notre compte à soi, sur notre suffisance, sur notre bon plaisir. Nous te demandons, bien au contraire, d'avoir un cœur assez désintéressé de lui-même pour que beaucoup puissent y trouver leur place. Et c'est ce que nous pouvons faire en disant ces mots qui nous viennent de loin, ces mots que le Christ a laissé à ses disciples comme un trésor dans lequel il est toujours possible de retrouver une exigence et un courage pour nous tenir sur la terre des vivants. Oui, ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction.
La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Voici, l'Éternel est avec nous. Amen. Chantons maintenant la 9e strophe du psaume 42.